J'espère que vous allez bien. On va prier et on va demander au Seigneur de nous diriger durant ces moments de partage. Voulons-nous placer à ton écoute, Seigneur, parce que ta parole est vérité et vie. Elle nous transforme et elle nous conduit dans le chemin dans lequel tu veux que nous marchions. Alors Seigneur, qu'à travers ce partage, ces réflexions, nous puissions recevoir de toi, je puisse recevoir de toi, et progresser dans mon cheminement, dans ma relation avec Jésus. Et c'est en lui que nous voulons te prier. Amen. Nous lirons un seul verset qui nous servira donc de réflexion. Dans le psaume 143, verset 10. Psaume 143, verset 10. Le psalmiste David écrit ceci. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Première partie du verset. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. À certains moments de l'existence, on arrive devant des carrefours dans notre vie, devant certains, à la croisée de certains chemins. Et il est parfois difficile de prendre la bonne orientation, de faire le bon choix, d'emprunter le bon chemin. Ainsi, par exemple, pour les jeunes, le moment des un carrefour, le premier carrefour qu'ils peuvent rencontrer est le moment lié au choix des études. Qu'est-ce que je vais entreprendre comme étude? Est-ce que je vais me tourner vers les sciences, vers les langues, vers la comptabilité? Premier carrefour important dans la vie du jeune. Deuxième carrefour important, ben c'est le choix du métier, bien que ça ne soit pas toujours possible de choisir. Mais le choix d'un métier est quand même important, si on a le choix, si on en a la possibilité. On arrive devant un carrefour. Quelle orientation prendre, tout en sachant que si je fais le bon choix, je vais être motivé dans le cadre de mes activités professionnelles. Je vais être zélé, dynamique, j'aurai du rendement. Par contre, un mauvais choix va entraîner une lassitude, un manque de rendement, un manque de motivation et peut nous faire aussi tomber dans la dépression, la déprime. Et puis il arrive un autre carrefour, une autre croisée de chemin. Avec qui me marierai-je? Ouh. Avec qui vais-je passer le restant de ma vie? Avec qui vais-je partager mes jours? C'est une grosse question. Tout en sachant qu'un mariage réussi peut être une bénédiction pour le service dans l'Église, pour Dieu. Mon épouse, mon conjoint, peut être un soutien, une source d'encouragement. Par contre, si je fais un mauvais choix, si je prends une mauvaise orientation, eh bien, je risque de le regretter parce que je vais connaître des tensions, je vais connaître des conflits, je vais connaître un manque de communication. Et sans la grâce de Dieu, sans une profonde remise en question mutuelle, sans humilité profonde de la part des deux conjoints, mais c'est le fiasco. Et on en arrive ainsi à la rupture, malheureusement. Tout ça à l'origine d'un mauvais choix préalable, d'une mauvaise orientation. Qu'est-ce qui oriente mon choix? Qu'est-ce qui dirige mon orientation? Est-ce que c'est ma volonté propre? Est-ce que ce sont mes affinités personnelles, mon appréciation personnelle? Ou bien est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui oriente mes choix? Qu'est-ce qui me motive dans mes décisions? Recherchons-nous la volonté du Seigneur dans tous les domaines de notre vie? Évidemment, je ne dis pas qu'il faille demander le conseil de Dieu pour le choix d'une chemise, la chemise que je vais mettre pour venir à l'église. Ou bien, si j'ai cette chance d'aller au restaurant, je ne vais pas non plus demander le conseil de Dieu pour le choix d'un menu. Mais je crois que quand nous sommes devant des carrefours importants qui jalonnent notre existence, il est important de faire le bon choix et d'essayer de discerner, pour autant que faire se peut, la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Enseigne-moi à faire ta volonté, disait le psalmiste, car tu es mon Dieu. De mauvais choix peuvent entraîner, engendrer des conséquences que l'on peut parfois porter pendant longtemps. Comment connaître la volonté de Dieu? Comment discerner la volonté de Dieu pour ma vie? Quand j'arrive à des carrefours, à la croisée de certains chemins, comment discerner la volonté de Dieu? Avant d'entreprendre les études de théologie que j'ai eu l'occasion et le privilège de faire, plusieurs éléments sont rentrés en ligne de compte. Il y a trois paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. Le premier paramètre, élément de mesure, ça a été la parole de Dieu. Plusieurs versets bibliques m'ont conforté dans cette idée que je prenais la bonne orientation. Notamment, beaucoup de versets que Paul adresse à Timothée. Puis la formation que les disciples ont reçue de la part de Jésus en vivant 3 années à ses côtés. Et puis aussi la formation que l'apôtre Paul a reçue quand il s'est retrouvé seul dans le désert, dans une certaine contrée en Arabie. Et plusieurs versets comme ça sont venus me conforter dans cette idée. Puis le deuxième élément qui est entré en ligne de compte, ça a été les circonstances. Des circonstances qui se sont avérées favorables quant au choix que je pensais prendre, quant à l'orientation que je pensais prendre, il y a eu le sacrifice financier de mes parents, parce que je devais aller pendant 3 années à Leuven, donc je devais loger là-bas, d'une part, et puis une vieille tante aussi, mais je l'ai appris par après, qui est intervenue aussi dans le soutien. Et puis j'ai eu une voiture gratuite, presque neuve, de 6000 kilomètres. Elle m'a rendu d'énormes services. C'était une Renault 5, blanche. J'ai parcouru beaucoup de kilomètres avec elle. Les circonstances. Deuxième paramètre qui est intervenu quant au discernement de la volonté de Dieu en ce qui me concerne. Et puis le troisième élément qui est intervenu, ça a été une paix profonde, une conviction intérieure, intime, apporté par le Saint-Esprit. Trois éléments. Les Saintes Écritures, les circonstances, et la conviction et la paix profonde procurée par le Saint-Esprit. Trois éléments qui permettent finalement de bien jauger quelle est la volonté de Dieu à mon égard. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Premier élément dont Dieu sert et qui doit absolument primer sur les deux autres, c'est la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Beaucoup de chrétiens voudraient que Dieu leur manifeste sa volonté de façon audible, de la même manière avec laquelle Dieu s'est adressé à Abraham, par exemple, en lui parlant de vive voix, façon audible. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Et va dans le pays que je te montrerai. Ou bien encore comme Moïse, qui parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami, face à face, à travers le buisson ardent, souvenons-nous. Ôte tes sandales, car le lieu, la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Va libérer mon peuple. Encore comme la manière avec laquelle Dieu s'est adressé à Saul de Tarse à travers cette lumière éblouissante, et Dieu lui a parlé d'une manière remarquable. Il s'est révélé à lui d'une façon surnaturelle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Et puis Dieu a continué à lui expliquer qu'il devait aller dans la ville de Damas, dans une certaine rue appelée la Droite. Je pense que Dieu peut encore parler de cette manière-là. Parce qu'il n'est pas limité dans le temps quant à sa puissance ou ses interventions. Dieu peut intervenir concernant la connaissance de sa volonté à travers une vision ou un songe. Nous l'avons vu il y a quelque temps, bien qu'il faille rester prudent par rapport à ça. Et nous avions relevé le fait que la vision, tout au moins en acte 9 et en acte 10, elle est bilatérale. Quand Ananie reçoit la vision d'aller imposer les mains à l'apôtre Paul pour qu'il recouvre la vue, l'apôtre Paul reçoit aussi cette même vision. Et en acte 10, pareil, Corneille le centenier reçoit une vision qui est confirmée par la vision de Pierre. Dieu peut parler encore de cette façon. Mais, cependant, le moyen privilégié que Dieu utilise aujourd'hui pour s'adresser aux hommes et aux femmes que nous sommes, pour s'adresser à ses enfants, reste sa parole écrite. C'est le moyen par excellence que Dieu utilise aujourd'hui. Dieu se révèle à nous à travers les saintes écritures. C'est la parole de Dieu écrite. Dieu nous dit ce qu'il attend de chacun de nous. Nous ne pouvons rien connaître de Dieu et de sa volonté pour nous sans nous en référer aux Saintes Écritures. Il y a quelqu'un qui a écrit ceci, je crois que c'est Ralph Challis. Écoutons. Nous trouvons dans la Bible des principes de vie qui touchent à tous les domaines de notre existence. Vie personnelle, vie familiale, vie sociale, vie professionnelle, il ne l'écrit pas, mais je pense qu'on peut le rajouter, si je peux me permettre. Que de questions résolues si nous suivions les enseignements bibliques. Quand nous désirons connaître la volonté de Dieu concernant une situation particulière, étudions ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet. La parole de Dieu, moyen de prédilection que Dieu utilise pour nous faire connaître, pour nous transmettre sa volonté pour chacun d'entre nous. Il est en effet certaines choses concernant la volonté de Dieu pour lesquelles on ne doit pas chercher ailleurs que dans la Bible. On n'a pas à réclamer une manifestation spéciale de la volonté de Dieu pour nous voir interdire un mensonge, ou bien un vol, ou bien un adultère, ou bien le choix d'un conjoint qui ne partage pas notre foi. La Bible est suffisamment explicite de ce côté-là. La Bible est suffisamment claire de ce point de vue-là. Mais que penser des questions au sujet desquelles la Bible se tait? Que penser des questions ou des sujets, au sujet, si je puis m'exprimer ainsi, desquels la Bible se tait, fait silence? Comme par exemple, la parole de Dieu ne me dit pas si je dois être dentiste, mécanicien, maçon, docteur, ou que sais-je, ou pasteur. La parole de Dieu ne me dit pas si je dois changer de voiture, ou quel hobby je devrais pratiquer. La parole de Dieu ne me dit pas si je dois acheter un nouveau lave-vaisselle. Je pense que c'est des exemples qui viennent comme ça à l'esprit. Alors, lorsque la Bible se tait sur certains domaines, je crois qu'on est en droit d'attendre que Dieu nous manifeste, nous montre sa volonté d'une autre manière. Si la Bible se tait sur certains sujets, dans certains domaines, concernant la volonté de Dieu, nous sommes en droit d'attendre de Dieu qu'il manifeste pour nous sa volonté d'une manière différente. Et c'est ici que rentre en ligne de compte Le deuxième élément qui nous aide à connaître, à discerner la volonté de Dieu pour nos vies, les circonstances. Les circonstances. En acte 16, nous voyons un exemple frappant. Alors que l'apôtre Paul et ses collaborateurs se préparent à rentrer en Bithynie pour y annoncer l'évangile, le verset 7 du livre des Actes, chapitre 16, nous dit ceci. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. La Bithynie, pour la situer, c'est au nord de la Turquie, à côté de la Mysie, pas loin de la Macédoine, la Grèce actuelle. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas de rentrer en Bithynie. Paul, le grand missionnaire et ses collaborateurs, et ses compagnons d'œuvre, voulaient rentrer dans un champ de mission, dans une terre de mission, où Dieu ne les voulait pas. Dieu les voulait ailleurs. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors on se pose la question, mais comment, de quelle manière, est-ce que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas de rentrer dans ce territoire de la province de Bithynie? Comment est-ce que la manifestation de l'Esprit de Jésus s'est révélée à Paul et à ses compagnons d'œuvre? Bien des exégèses bibliques pensent qu'un concours, précisément, de circonstances s'est dressé devant Paul et ses compagnons de telle manière à les empêcher de rentrer dans cette terre-là, dans cette terre de mission. Dieu ne voulait pas, en tout cas à ce moment-là, qu'ils rentrent sur ce territoire pour annoncer l'Évangile. Dieu les voulait ailleurs. Alors les circonstances, on ne sait pas quelles circonstances les ont empêchés de pouvoir rentrer dans ce territoire. Ça peut être un tas de choses que nous pouvons imaginer. Peut-être qu'une légion romaine leur ont barré la route. Peut-être que Paul est tombé malade. Peut-être qu'ils se sont perdus en quittant le sentier battu ou la chaussée romaine. Je ne sais pas s'il y en avait une sur cet itinéraire. Parce que c'était des distances, des parcours, des territoires désertiques. Il n'y avait personne et c'était facile de se perdre. On ne sait pas. Toujours est-il que, probablement que les circonstances n'ont pas permis à l'apôtre Paul et à ses compagnons de rentrer dans cette terre de mission en Bithynie. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et je pense que c'est important aussi pour nous. Les circonstances de la vie, de nos vies, sont parfois comme autant de panneaux indicateurs que Dieu utilise pour nous montrer sa volonté. Les circonstances. Supposons par exemple que j'ai à cœur la mission. Je me semble avoir reçu un appel pour la mission et que une maison missionnaire, un organisme missionnaire accepte ma candidature. Si ce n'est pas le plan de Dieu que je parte en mission, il peut provoquer une série de circonstances qui vont m'empêcher de partir en mission. Peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que mon départ est postposé. Ça peut être un problème de santé, une épreuve diverse, un problème de santé lié à ma compagne qui ne peut pas m'accompagner ou un désaccord avec elle, parce qu'il faut être à deux en principe pour partir. Peut-être que ça peut être aussi des dons financiers qui n'arrivent pas. Ça peut aussi être considéré comme une porte qui se ferme finalement, les circonstances. C'est ainsi que Dieu agira pour tout chrétien qui cherche vraiment à accomplir sa volonté. C'est un auteur chrétien, Christian Weiss, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui écrit comment les circonstances ont conduit deux hommes de Dieu, deux chrétiens fidèles du siècle dernier, vers la terre de mission. Ces deux chrétiens, il y en a un qui est bien connu, c'est David Livingstone, et l'autre, c'est un chrétien missionnaire un peu moins connu, Adoniram Judson. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais enfin, écoutons ce que l'auteur dit à leur sujet, concernant les circonstances qui les ont amenés en terre de mission. Un grand nombre de missionnaires célèbres furent amenés sur le champ par des circonstances inattendues. David Livingstone s'intéressa aux missions peu de temps après sa conversion, car, disait-il, le salut des hommes devrait être le désir et le but principal de chaque chrétien. Néanmoins, la décision de consacrer sa propre vie au travail missionnaire fut prise après la lecture d'un appel lancé par un missionnaire en Chine. Livingstone décida de se rendre en Chine et d'acquérir pour cela une formation médicale. Lorsqu'il fut prêt, les portes de la Chine étaient fermées à cause de la terrible guerre de l'opium. La société missionnaire de Londres voulut alors l'envoyer aux Indes, mais il protesta que ses connaissances médicales ne seraient pas indispensables puisqu'il y avait déjà, là-bas, en Inde, des médecins. Finalement, grâce à Robert Moffat, un pionnier en Afrique du Sud, le cœur de David Livingstone se tourna vers le continent africain, continent noir. Qui oserait douter que cet homme ait accompli la volonté de Dieu? Un homme qui s'est soumis aux circonstances, considérant qu'elles venaient de Dieu. Circonstances qui l'ont conduit, non pas en Chine, là où il pensait aller au départ, mais en Afrique. Les circonstances. Et puis pour l'autre, là, Adoniram Judson, il fut également guidé par des circonstances extraordinaires. À 21 ans, il lut un rapport publié par un homme qui avait servi d'aumônier aux Indes. Ce rapport expliquait comment Dieu manifestait sa puissance aux Indes et comment sa bénédiction reposait en particulier sur les efforts fructueux d'un missionnaire allemand, Frédéric Schwartz. Le sermon tomba comme un tison ardent sur le feu qui brûlait dans l'âme de Judson. 6 mois plus tard, il résolut de devenir missionnaire, merci, il s'embarqua pour les Indes, mais à son arrivée, il ne reçut pas l'autorisation de débarquer. C'est ainsi que le bateau jeta l'ancre dans le port le plus proche, Rangoon, en Birmanie. Il passa toute sa vie dans cette contrée et travailla pour la gloire de son maître d'une manière si remarquable que nul ne pouvait nier que la providence divine le dirigea vers ce pays. Il voulait partir aux Indes, mais Dieu ne voulait pas l'envoyer là. Et les circonstances l'ont conduit non pas en Inde, mais en Birmanie. Oui, Dieu a guidé et guide toujours aujourd'hui ses enfants à travers les circonstances, par le moyen des circonstances courantes de la vie. Cependant, pour être certain de l'interprétation des circonstances et pour pouvoir les discerner au mieux, c'est important d'avoir, de cultiver une étroite relation, communion, proximité avec Dieu. Et il ne faut pas oublier non plus cette règle d'or, les circonstances ne doivent d'aucune manière être en contradiction avec le témoignage des Écritures. Les circonstances ne peuvent pas s'opposer à ce que la Bible dit. Troisième élément qui rentre en ligne de compte quant au discernement de la volonté de Dieu pour moi. Eh bien, c'est la conviction intérieure profonde et la paix intime procurée par l'Esprit de Dieu. La paix et la conviction apportée par l'Esprit de Dieu. En acte 11, nous trouvons l'épisode de la rencontre entre l'apôtre Pierre et, comme on le mentionnait tout à l'heure, du centenier romain Corneille. Corneille qui s'est converti au christianisme à la suite de cette rencontre. Et au chapitre 11, un passage, ceci dit au passage, si vous me permettez, qui nous montre désormais que la porte de l'évangile est ouverte aux non-juifs. Et nous lisons en acte 11, au verset 12, c'est Pierre l'apôtre qui parle et qui dit « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter, avec les trois envoyés qui étaient venus de chez Corneille pour appeler l'apôtre Pierre. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. » Comment l'Esprit dit à Pierre de partir en compagnie de ses envoyés de Corneille jusque dans sa maison? Comment est-ce que l'Esprit s'est manifesté, a dit à l'apôtre Pierre de partir? On peut se poser la question. Pas nécessairement par une voix perceptible à l'oreille humaine, car il existe une perception différente de celle qu'on peut entendre avec l'oreille humaine. Le Saint-Esprit, en effet, peut nous parler en imprimant dans nos cœurs des convictions indélébiles, incontestables. Le Saint-Esprit peut imprimer dans nos cœurs une conviction et une paix profonde par rapport à la volonté de Dieu, à la volonté que Dieu a pour moi. Rappelons cependant la règle d'or qui était valable pour les circonstances. Jamais la paix intérieure, ni même une conviction profonde, ne peut aller à l'encontre de ce qui est écrit, de l'enseignement biblique, de la parole de Dieu. Vous savez, une fois, il y a un jeune qui est venu me trouver parce qu'il avait rencontré une jeune fille. Une jeune fille qui ne partageait pas sa foi. Et il me dit, je sais qu'elle n'est pas chrétienne, mais j'ai la conviction que je dois l'épouser. Je dis, mais est-ce que ta conviction, elle vient de Dieu ? Est-ce que la parole de Dieu, elle est claire aussi par rapport à ce genre de situation ? Ne vous alliez pas, bon, vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 7, sous un joug étranger. Alors il en a fait qu'à sa tête, et il a considéré que sa conviction intime et profonde prévalait sur ce que l'enseignement biblique disait. En aucun cas, la conviction personnelle ne peut aller à l'encontre de ce que la Bible affirme ou atteste. Il y en avait un autre, lui, il était marié. Un jeune mari, il avait un enfant. Je ne vous dirai pas qui c'est. Mais il avait rencontré une autre femme. Et il me dit, je n'ai plus de communion, de communication avec mon épouse, et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et j'ai la paix par rapport à ça. Et je crois que je vais divorcer. Et je crois que je vais l'épouser. Je dis, mais d'où vient ta paix? La Bible, Jésus, autorise certaines formes de divorce, mais sous 3 clauses. Le veuvage, l'abandon et l'adultère. Et encore, même s'il y a adultère, tu as toujours la possibilité d'accorder ton pardon et de recommencer à zéro. Mais non, il avait la paix. Et il a continué dans cette route. Il a divorcé d'avec sa femme et il s'est remarié. Et un petit peu plus tard, ça n'allait pas. Quand les convictions que l'on ressent au fond de soi-même vont à l'encontre de ce que la Bible dit, de ce que la Bible affirme. on ne peut recevoir de conviction profonde, de paix intime, authentique et véritable, qui proviennent de Dieu, que dans la mesure où nous vivons dans sa proximité et où nous l'écoutons. Quand Nicolas et Nathan étaient plus jeunes, après qu'ils aient mangé, parfois, quand il faisait bon, ils allaient jouer dans la prairie. Je dis, ne quittez pas la prairie, parce que je peux avoir besoin de vous, je peux vous appeler, j'ai envie de prendre de vos nouvelles pour voir si tout se passe bien. Un jour, je les ai appelés, ils n'ont pas répondu. Et puis, un petit peu après, ils sont revenus. Je leur ai dit, je les ai sermonnés, je dis, mais vous n'avez pas répondu quand je vous ai appelé. Il y a le petit Nicolas, qui est toujours un petit peu, et qui m'a répondu, mais comment on pouvait t'entendre, papa, on était trop loin pour t'entendre, on ne t'a pas entendu. Mais justement, si vous étiez resté dans la prairie, vous m'auriez entendu. N'est-ce pas un peu pareil avec nous, frères et sœurs? Ne sommes-nous pas, parfois, un peu trop éloignés de Dieu que pour pouvoir entendre, que pour pouvoir écouter, que pour pouvoir recevoir ses convictions et sa paix profonde? C'est important. Cultiver notre relation, cultiver notre proximité, cultiver notre communion avec Dieu pour pouvoir percevoir son appel, pour pouvoir percevoir sa voix, pour pouvoir percevoir sa volonté à travers une conviction profonde et une paix intime qu'il veut nous transmettre par le Saint-Esprit. Conclusion. Enseigne-moi, disait le psalmiste, à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Un jour, un homme avait demandé au capitaine d'un navire comment est-ce qu'il pouvait retrouver le port, comment est-ce qu'il pouvait trouver l'étroit chenal qui menait au port dans l'obscurité, en pleine mer. Et alors il a dit à son interlocuteur, tu vois les lampes qui sont là-bas, les trois lampes qui sont là-bas. Quand elles sont dans un parfait alignement, je sais que je suis dans la bonne direction. Sans ces phares, je ne peux pas trouver le port. Et c'est un petit peu pareil pour nous-mêmes, frères et sœurs. Pour nous pouvoir discerner la volonté de Dieu à notre égard, nous avons aussi besoin de ces trois phares. Le premier phare, comme nous l'avons vu, c'est celui de la parole de Dieu, de ses enseignements, de ce qu'elle veut nous transmettre concernant la volonté de Dieu pour nos vies, pour ma vie. Le deuxième phare, c'est celui des circonstances, le phare lié aux circonstances de la vie, qui peuvent confirmer la volonté de Dieu pour moi dans un tel ou tel domaine de la vie. Et enfin, le troisième phare, c'est la conviction intime, profonde, et la paix intérieure produite par le Saint-Esprit. Quand ces trois phares sont alignés, quand il y a harmonie entre ces trois éléments, fonçons, parce qu'on peut être certain que Dieu a parlé. La parole de Dieu, les circonstances et la paix et la conviction intérieure. Le plus beau témoignage qu'on puisse dire de moi, de vous, est celui-ci, il a accompli la volonté de Dieu. C'est vrai d'un homme comme David, dont Dieu a pu dire en Actes 13, verset 22, et nous terminerons par là, « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Est-ce que nous pouvons dire cela de moi? Pouvons-nous dire cela de vous, de chacun d'entre nous, frères et sœurs? Que Dieu nous aide à pouvoir discerner sa volonté pour vivre selon ses plans divins.